Nous parlons de William Faulkner dans la compagnie des auteurs et de ses nouvelles qui viennent d'être regroupées dans un nouveau volume de la Pléiade sous la direction de François Pitavi qui est mon invité. Et pour ouvrir cette seconde partie, voici un extrait de l'une de ses nouvelles les plus célèbres, Une rose pour Émilie, lue par Alexandre Pavlov.
Sous la violence du choc, quand on défonça la porte, la chambre parut s'emplir d'une poussière pénétrante. On aurait dit qu'un poil mortuaire, tenu et âcre, était déployé sur tout ce qui se trouvait dans cette chambre, paré et meublé comme pour des épousailles, sur les rideaux de damas d'un rose passé, sur les abat-jours roses des lampes, sur la coiffeuse, sur les délicats objets de cristal, sur les pièces du nécessaire de toilette avec leur dos d'argent terni, si terni que le monogramme en était obscurci. Parmi ces pièces se trouvait un col et une cravate, comme si on venait juste de les enlever. Quand on les souleva, ils laissèrent sur leur surface un pâle croissant dans la poussière. Le vêtement était soigneusement plié sur une chaise sous laquelle gisaient les chaussettes et les souliers muets. L'homme, Homer Barron, lui-même, était couché sur le lit. Pendant longtemps, nous restâmes là, immobile, regardant son rictus profond et décharné. On voyait que, pendant un temps, le corps avait dû reposer dans l'attitude de l'étreinte, mais le grand sommeil qui survit à l'amour, le grand sommeil qui réussit à conquérir même la grimace de l'amour, l'avait trompé. Ce qui restait de lui, décomposé sous ce qui restait de la chemise de nuit, était devenu inséparable du lit sur lequel il était couché. Et sur lui, comme sur l'oreiller à côté de lui, reposait cette couche unie de poussière tenace et patiente. Nous remarquâmes alors que l'empreinte d'une tête creusait l'autre oreiller. L'un d'entre nous y saisit quelque chose et en nous penchant, tandis que la fine, l'impalpable poussière nous emplissait le nez de son âcre sécheresse, nous vîmes que c'était un cheveu, un long cheveu, un cheveu de couleur gris fer.
Une des nouvelles les plus célèbres de Faulkner, François Pitavi. Je vous voyais l'écouter avec beaucoup de plaisir.
On l'écoute toujours avec beaucoup de plaisir. C'est vrai que c'est une admirable nouvelle qui rentre tout à fait, si vous voulez, dans le type d'histoire qu'on raconte beaucoup dans le Sud, qu'on appelle les histoires gothiques, les histoires qui mêlent l'amour et la mort. Et là, à l'évidence, c'est un sujet parfaitement scandaleux et qui convenait à cet imaginaire gothique que l'on voit dans le Sud. Et c'est vrai que c'est sa nouvelle qui est la plus reproduite dans les anthologies, et c'est la nouvelle la plus connue, celle qu'il a fait connaître en 1930. Hein.
Pourquoi parfaitement scandaleux?
Oui, pourquoi? Parce que c'est toujours la conjonction, si vous voulez, du sexe et de la mort qui traverse toute son œuvre. Non, c'est pas scandaleux, c'est la vérité.
Quand on repense à cette phrase de Malraux, l'irruption de la tragédie dans le roman policier, cette nouvelle, finalement, en est un bon exemple.
Ça s'applique aussi pour cette nouvelle, comme ça s'appliquait pour Sanctuaire, il n'y a pas de doute. Et c'est en cela, c'est qualité choquante que peut avoir la nouvelle, côté roman policier, si vous voulez, qui a fait qu'elle a été si célèbre et qu'elle l'est toujours. Tous les élèves des lycées américains, quand ils étudient Faulkner, lisent cette nouvelle. Je ne suis pas sûr que ça soit la meilleure. Je préfère beaucoup les nouvelles qui sont des nouvelles de formation ou d'éducation, qui permettent très souvent à un enfant, un adolescent, si vous voulez, de devenir homme par l'expérience qu'il vient de rencontrer. Et ça, ce sont les très très belles nouvelles de Faulkner. Si je peux citer un seul exemple, c'est L'Incendiaire. L'Incendiaire, pour moi, c'est peut-être la plus belle nouvelle de Faulkner. Je peux en dire deux mots, là?
Oui, bien sûr.
Oui, c'est un enfant qui est dominé par son père. Et au début, il y a un procès et où le père, qui est un incendiaire...
Très impulsif, une personnalité...
Oui, c'est un personnage très violent. C'est-à-dire que chaque fois qu'il quitte sont le propriétaire dont il travaille.
Parce qu'il est métayer, finalement.
Oui, c'est le métayer. Bon, sa violence, il ne supporte pas, justement, cette domination. Et quand il part, avec un prétexte quelconque, il met toujours le feu à la grange de l'homme qu'il vient de quitter, d'où l'incendiaire. Et le petit garçon de 8-9 ans, ou 10 ans, je ne sais plus exactement, veut mettre fin à cet engrenage de la violence dans lequel il a toujours vécu. Et à un moment, il s'aperçoit que son père veut aller mettre le feu à la grange d'un autre propriétaire, et il ne supporte plus. Donc il court pour essayer de prévenir le propriétaire. Le propriétaire sort, mais c'est trop tard, la grange prend feu, et le propriétaire part à cheval, poursuit l'incendiaire, et tire un coup de fusil, et, peut-on penser, le tue. Et le petit garçon, à la fin, là, laisse derrière lui ce père qu'il aime, qu'il admire, mais le laisse derrière, parce qu'il ne pourra pas entrer dans l'âge adulte s'il ne tourne pas le dos à son père. Et la dernière image est magnifique. Ça se trouve au petit matin, il est au sommet d'une colline, et on entend tous les oiseaux qui chantent, c'est le printemps, et en quelque sorte, il entre dans la vie sans se retourner, c'est ce qui est dit dans le texte. Donc, si vous voulez, le passage de l'innocence à l'expérience se fait par ce traumatisme qu'il ne peut éviter s'il veut entrer dans l'âge de l'expérience, justement.
Je crois qu'il y a une autre nouvelle que vous aimez, François Pitavi, c'est Évangeline.
Évangeline.
Oui.
Oui, Évangeline. Bon, je l'aime bien parce que c'est la nouvelle dont est sorti Absalom, Absalom. Et c'est une très belle nouvelle sur une maison qui finalement tombe en ruine par la démesure de cette peine le propriétaire. Mais si vous voulez, elle n'a pas été publiée, elle n'a pas eu peut-être le renom qu'elle aurait dû avoir au départ, parce que Faulkner pensait déjà à Absalom, Absalom, et donc il en a repoussé la publication, parce que d'Évangeline, il a fait cet extraordinaire et superbe roman.
On peut écouter un extrait d'Absalom, Absalom.
Ah oui.
Le sud, dit Shrève. Le sud, mon Dieu. Pas étonnant que vous tous, là-bas, vous vous surviviez à vous-même pendant des années et des années. Je pense qu'un jour, les Jim Bond domineront l'hémisphère occidental. Naturellement, ce ne sera pas tout à fait pour tout de suite, et naturellement, à mesure qu'ils s'étendront vers les pôles, ils blanchiront comme les lapins et les oiseaux pour ne pas être aussi visibles sur la neige. Mais ce sera toujours Jim Bond. Si bien que dans quelques milliers d'années, moi qui te parle, je serai sorti des reins de rois africains. Maintenant, je voudrais que tu me dises encore juste une chose. Pourquoi est-ce que tu hais le Sud ? Je ne le hais pas ! Répondit vivement Quentin, sur le champ immédiatement. Je ne le hais pas, dit-il. Je ne le hais pas, pensa-t-il. Haletant dans l'air glacé, dans l'implacable obscurité de la Nouvelle-Angleterre. Non, non, je ne le hais pas. Je ne le hais pas.
Absalom, Absalom, dans une lecture de François Chaumette. Vous connaissez bien ce livre, vous les connaissez tous, mais celui-là peut-être encore plus, parce que vous l'avez édité dans la Pléiade et aussi dans la collection L'Imaginaire Gallimard. Il est bien choisi cet extrait ?
Tout est dit. Tout est dit, et au fond, ça rejoint la fin de ce superbe essai semi-autobiographique qu'il a écrit dans les années 54-55, je crois, qui s'appelle Mississippi, où il dit à la fois son amour et son ressentiment devant cette terre qu'il ne peut pas ne pas aimer parce qu'il n'existerait plus, et en même temps dont il récuse la violence, il dit « on n'aime pas parce que, mais en dépit d'eux ».
Yukna Patofa, c'est un nom qui est un nom indien. Et il y a les Noirs, mais il y a aussi les Indiens dans les romans de Faulkner et les nouvelles aussi, puisqu'on a compris que c'était un continuum, tout ça, c'est poreux. Quelle est la place des Indiens, François Pitavi, dans son œuvre?
Si on veut parler des Indiens, je crois qu'il faut parler de ces fameux tumulus que l'on rencontre dans le Mississippi. Je me souviens d'en avoir vu un quand j'étais dans le Mississippi. Et cette espèce d'élévation, de tertre, si vous voulez, peut-être d'une cinquantaine de mètres de hauteur, qui sont à la fois des lieux de sépulture et des lieux où les gens se réfugiaient lors des grandes crues du Mississippi, parce que c'était les seuls lieux qui émergeaient. C'est ce qu'on voit tout à fait dans les palmiers sauvages, dans la partie qui s'appelle Vieux Père, où on le voit, ces crues gigantesques du Mississippi. Et ça me semble étonnant parce que, justement, ce tumulus conjoint à la fois la mort et la vie. C'est ce tumulus que vient accoucher cette femme. Et c'est là qu'elle donne la vie. Autrement dit, il faut être ancré dans sa propre histoire pour arriver à survivre. Et je crois qu'il y a cette admirable, une fois, conjonction de la mort et de la vie qui naît, que l'on trouve dans l'image de ce tumulus, que Faulkner reprend très souvent parce que c'est un des hauts lieux de son imaginaire.
Et vous en avez vu alors quand vous êtes allé dans le sud des États-Unis? C'est ça que vous disiez peut-être tout à l'heure quand vous nous avez expliqué que en allant là-bas, vous avez mieux compris Faulkner.
Mais on s'est ému, j'avais envie de voir ce que c'était. Bon. Et bon, ça peut n'être qu'une espèce de tertre. Mais en même temps, j'avais tellement lu de choses sur ce tumulus que je l'ai paré de tous mes souvenirs, si vous voulez. Et de tout ce que j'imaginais à propos de ces tumulus. Mais je tenais absolument à voir ce que j'ai fait. Il y en a encore quelques-uns.
C'est vraiment le maître pour tous les écrivains du sud des États-Unis qui l'ont suivi, Faulkner. Je pense à cette citation de Flannery O'Connor qui est assez célèbre, oui, et que j'aimerais bien lire ici. Pour savoir ce qu'on peut se permettre ou non de faire, la simple présence de Faulkner, personne n'a envie... Alors attendez, excusez-moi. Oui. La simple présence de Faulkner parmi nous change tout. Personne n'a envie de se retrouver coincé avec sa charrette et son mulet en travers de la voie ferrée quand déboule le Dixie Limited. Et le Dixie Limited, c'est Faulkner, François Pitavi.
Oui, mais enfin, elle dit ça à beaucoup d'humour parce que, en même temps, elle avait une immense admiration pour Faulkner, qu'elle connaissait bien, et tous les deux s'entendaient fort bien.
Oui. Et Dixie, ça veut dire...
C'est-à-dire ce grand train du Sud. Dixie, c'est le mot qui représente le Sud, si vous voulez.
Donc c'est déjà un monstre sacré dans les années 50 aux États-Unis. Vous avez dit tout à l'heure qu'il était peut-être mieux compris ou compris plus vite en France, mais quand même, il va ouvrir aux États-Unis toute une génération d'écrivains.
Tout à fait. Mais ce qui est quand même assez surprenant, c'est que dans sa propre petite ville d'Oxford, au moment où il a reçu le prix Nobel... Au fond, les gens s'étonnaient de ce qu'on puisse décerner un pareil titre à un homme qui était, après tout, leur concitoyen, oui, dont ils ne voyaient pas ce qu'il avait de génial. Donc, même aux États-Unis, il a fallu un certain temps pour qu'on en puisse reconnaître, disons, l'éminence, ce que les Français, peut-être à cause de cette distance dont on parlait tout à l'heure, ont reconnu d'emblée.
Et aujourd'hui, c'est différent?
Ah ben aujourd'hui, comment dirais-je, il y a non seulement un culte Faulkner, mais c'est devenu une industrie, si vous voulez. Il y a d'innombrables colloques. Il y a tous les ans ce grand colloque qui s'appelle sur le Yukna Patofa et qui réunit des chercheurs du monde entier. Les Japonais ils viennent en masse. Maintenant, c'est absolument du monde entier. Et les gens viennent échanger leurs vues sur Faulkner. Ou autour de Faulkner, ou à propos de Faulkner. Et Faulkner est quelquefois uniquement un prétexte pour venir parler dans le Mississippi.
Oui, bah, comme tous les colloques. Hein. Et les écrivains d'aujourd'hui, les jeunes, est-ce que vous avez l'impression, tout comme les chercheurs d'ailleurs américains, qu'ils s'intéressent à Faulkner? Parce que quand même, c'est un modernisme qui n'est peut-être plus tout à fait dans l'air du temps aujourd'hui.
Il ne me semble pas cité par les grands écrivains contemporains, peut-être Flannery O'Connor, bien sûr, mais c'est plus un écrivain contemporain maintenant, moins cité qu'en France. Pourquoi ? C'est parce que ça a toujours représenté une sorte de perfection de la littérature américaine aux yeux des Français. Et c'est vrai que dans toutes les émissions, ce qu'on dit aujourd'hui, on est à la preuve, il représente toujours un niveau d'excellence de la littérature américaine, une sorte de référence absolue.
Le silence, on va terminer par là. Vous dites que Faulkner sait faire parler le silence.
J'ai dit cela.
Vous l'avez écrit en tous les cas.
Oui.
On peut dire qu'en tous les cas, pendant son discours de réception au prix Nobel, c'était le 10 décembre 1950, oui. Personne ne l'a entendu. Il parlait trop faiblement. C'était presque déjà silence.
C'est vrai, il était inaudible. Et c'est seulement le lendemain, quand on a publié le texte, que les louanges sont venues. Non, ce que je veux dire par là, c'est que c'est le silence de la page, si vous voulez. Où il faut le lire pour l'entendre, pour bien entendre toutes les résonances de sa voix. C'est sur la page. C'est peut-être ça que je voulais dire par le silence.
Merci beaucoup, François Pitavi, d'être venu évoquer pour nous les nouvelles de Faulkner et bien d'autres choses. Ces nouvelles, vous en avez dirigé la publication dans un nouveau volume de la Pléiade, disponible depuis le 15 mars dernier.